Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahi la yawmiddin, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de consacrer un peu de temps, 20 minutes de notre journée, 30 minutes peut-être, pour essayer de comprendre deux versets de la sourate Al-Muzzammil. Pour rappel, et le rappel est toujours profitable, la sourate Al-Muzzammil est une sourate makkiya, c'est-à-dire une période extrêmement difficile et complexe où le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les premiers croyants à cette époque, d'autant plus que la sourate Al-Muzzammil a été révélée au début de la période makkiya. D'accord, il y a le début de la période Makki et la fin de la période Makki qui se rapproche de la période Madani. La première période Makkiya, on reste dans Da'wa Sirriya. Vous avez peut-être entendu ces termes, la prêche en secret, d'accord, tout simplement. La prêche en secret, c'était une période où il fallait être justement discret, ne pas affirmer sa foi. Et la fin de la période Makkiya, où la prêche elle est plus ouverte, c'est la période où il y a des persécutions. Là, on est au début de la sourate, de la période Makkiya, donc vraiment dans la période où la prêche, elle, se fait de façon la plus discrète possible. Et notre prophète, alayhi salat wa salam, commence à entendre des paroles déplaisantes et des accusations de la part des Quraysh. Et on a vu les versets où Allah Rabbul Izza lui demande « Wasbir ala ma yaqulun » et Dieu seul sait comment est-ce qu'on aurait besoin, nous, à notre époque, de mettre ce verset en pratique. Alors, on veut vraiment rester aujourd'hui dans le thème du Qiyama, mais subhanallah, quand on a un surat, c'est un tout. Et ce qui est magique, on va dire, le côté miraculeux, mu'ajiza de la révélation, c'est que nous avons des versets qui ont été révélés à Mecca ou à Medina et qui sont révélés pour le prophète alayhi salat wa salam et les croyants selon un contexte particulier qu'ils sont en train de vivre, sachant que le Coran a été révélé de façon fragmentée en fonction des circonstances. Mais subhanallah, même si spatio-temporel, les deux, c'est subhanallah à une distance énorme de notre époque et un contexte totalement différent, mais le côté miraculeux du Coran, c'est que chaque verset qui a été révélé à cette époque, on peut l'apprendre, le comprendre et le mettre en application pour réguler notre vie et pour régler nos problèmes au quotidien. Ainsi, lorsque je lis « Wasbir ala ma yaqulun », fais preuve de patience face à leurs accusations, face aux paroles qu'ils vont prononcer, qu'ils disent au quotidien. Et nous, subhanallah, en tant que croyants, lorsque nous entendons dans les médias des accusations sur l'islam, on ne va pas vous expliquer tout ça, ce sont des choses claires que nous avons l'habitude d'entendre, malheureusement. Faire preuve de patience. As-sabru ala ma yaqulun. Faire preuve de patience par rapport aux accusations, par rapport à tout ce qui peut nous blesser. À partir du moment où toi, musulman, tu es en paix avec toi-même. Bon, ça c'est une expression moderne. Être en paix avec soi-même, c'est plutôt avoir la conviction, le yaqin sur notre croyance, sur nos pratiques, et que entre nous et notre Seigneur, subhanallah, il y a une relation. Je vis une relation de soumission avec mon Rabb et j'ai une relation respectueuse envers les gens. Je ne fais du tort à personne. Je voue ma vie au culte, à l'adoration d'Allah et au bon comportement avec mon prochain. Quelles que soient les situations déplaisantes que je peux vivre, les paroles déplaisantes que je peux entendre, je m'en remets à mon Seigneur. Je prêche. J'explique, j'essaie de rectifier l'information, mais si nous avons en face de nous des gens qui ont la même position que les Quraysh, qui n'acceptent pas la vérité par fierté, par orgueil ou autre, isbir ala ma yaqulun. Fais preuve de patience par rapport à ces accusations, par rapport à ce que les gens disent. Donc, allez, on revient au verset du jour, les deux versets que nous avons lus, où Allah Azza wa Jal parle de l'au-delà. On avait vu que Lorsque notre Seigneur Azzawajal avait mis en garde les Quraysh contre le kufr et contre les paroles qu'ils prononçaient à l'encontre du Prophète Sallam et de l'islam, Allah Azzawajal avait cité des versets en rapport avec l'au-delà. Et là, Allah met en garde directement les mushrikins de Quraysh contre ce fameux jour où ils ne trouveront aucune protection, si ce n'est l'aide et la protection d'Allah Azzawajal. Traduction du verset, comment vous préserverez-vous si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? On a une métaphore qui est puissante, où on compare, où on cite la situation d'un enfant qui, le jour de Qiyama, en voyant la situation de l'au-delà, aura tellement peur, dont le cœur sera épris d'effroi, que sa jeunesse, son enfance, se transformera en vieillesse. Là, on va à l'encontre des règles de biologie ou de développement des cellules ou autre chose, pour qu'on réalise que c'est une situation, c'est, on va dire, une ahwal, une situation qui est propre à l'au-delà, qui n'est plus sous contrôle, où aucune règle que nous connaissons dans ce dunya n'est encore valable le jour de Qiyama. On reprend dans l'ordre des différents points qui ont été énoncés et de façon brillante par Ibn Kathir, le tafsir de ces versets. Ibn Kathir, rahimahullah, yaqulu rahimahullah. Il dit qu'il y a deux qawls, il y a deux approches, deux tafsirs de ce verset. Premièrement, kayfa yahsulu lakum amanun, ô mushrikin de Quraysh, comment pensez-vous, comment pouvez-vous penser être en sécurité le jour de Qiyama, alors que de ce dunya, vous êtes de le kufr. Ça, c'est un tafsir. C'est un tafsir qui est tout à fait compréhensible et qui est dans le contexte. Où Allah Azza wa Jal rappelle aux Quraysh qu'il y a la mort. Les Quraysh étaient d'accord qu'il y a une mort, mais les Quraysh, ça faisait partie des, on va dire, des fondements de leur kufr, hein, c'est qu'ils ne croyaient pas à la vie après la mort. Allah Azza wa Jal dit, comment pensez-vous vous en sortir et être à l'abri des tourments le jour de Qiyama alors que vous êtes de le kufr? C'est le premier tafsir, c'est ce qui est retenu par la majorité des savants. Ibn Kathir cite un dernier verset, comment pensez-vous obtenir une protection si vous ne croyez pas en ce jour, c'est-à-dire le jour de Qiyama? Et ça rejoint ce qu'on a dit, le fait que les Quraysh ne croyaient pas à la vie après la mort. Et Ibn Kathir dit, wakilahuma, et les deux tafsirs sont corrects. Les deux tafsirs peuvent être appliqués, peuvent être retenus pour la compréhension correcte de ce verset. À notre niveau, on a un verset où Allah Azza wa Jal s'adresse aux Quraysh. Mais, c'est ce qu'on a dit, dans n'importe quel verset, le mu'min doit être capable de prendre une partie, soit l'intégralité, soit ce qu'il peut prendre de la lumière des versets, et le vivre, et le mettre en application pour sa vie. Et donc, pour nous, les mufassirines, les contemporains disent que, quand nous voyons qu'Allah Azza wa Jal reproche aux Quraysh le fait qu'ils restent éloignés du droit chemin, et que le jour de Qiyama, donc, ils n'auront aucune issue. À moi de comprendre que si je tourne le dos à mon Seigneur, si je persiste à vivre dans l'égarement, si je persiste à vivre dans le péché, hein, je ne fais pas d'introspection sur ma vie, je n'analyse pas ma vie au quotidien, je persiste dans mes péchés cumulés et je ne fais aucun effort pour me rapprocher d'Allah, comment peut-on imaginer, penser que le jour de Qiyama, nous serons à l'abri? Et ça va à l'encontre d'un discours ambiant et d'un discours très simpliste qu'on entend de la part de beaucoup de personnes. Ceux qui disent qu'il suffit de dire « La ilaha illallah » pour être sûr d'accéder au paradis, et celui qui a « La ilaha illallah » le jour de Qiyama, la personne aura les plus hauts rangs. Certes, il y a des textes, des hadiths qui vont dans ce sens, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également des hadiths qui rappellent que le jour de la résurrection, des gens qui seront parmi les ahl al-tawhid, des gens qui ont lu « La ilaha illallah » Muhammad de Rasulullah, ces personnes seront ressuscitées du mauvais côté, on pourra dire, avec les personnes qui auront commis des péchés, avec des personnes qui auront passé leur vie dans la mécréance ou dans la désobéissance. N'oublions pas qu'il y a des textes qui rappellent que certains croyants vont recevoir le livret de compte de la main gauche, d'ailleurs leur dos. D'autres textes rappellent que des personnes auront de bonnes œuvres, mais ils seront littéralement dépouillés de leurs bonnes actions à cause du mal, qu'ils auront accompli de ce monde le tort qu'ils auront causé aux gens, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle « hukukun nas ». Donc, la compréhension saine de la religion est basée sur une analyse de l'intégralité de la révélation fusionnée aux différents ahadiths, aux textes prophétiques qui doivent là également être rassemblés pour avoir une vision d'ensemble. Il ne suffit pas de prendre un texte, de dire que voilà, celui qui a la ilaha illallah n'entrera pas, ne restera pas de le feu, et donc du coup, je mène une vie sans limite, où il y a une totale absence de taqwa, et je me dis que la ilaha illallah sera suffisant. La wallah. Le prophète alayhi salat wa salam a décrit une situation de l'au-delà qui l'avait beaucoup attristé, beaucoup peiné. Et il avait dit que le jour de Qiyama, à la fin, on va dire à la fin de la résurrection, le prophète alayhi salat wa salam obtiendra l'autorisation de la part d'Allah. Il demandera l'intercession pour les croyants qui sont dans le Jahannam. Et le prophète alayhi salat wa salam décrit qu'il ira les chercher dans l'enfer. Alors là aussi, on met de côté notre approche rationnelle des choses. Comment est-ce que le prophète peut-il aller en enfer? L'enfer ne va pas-t-il le brûler? C'est les lois physiques que nous maîtrisons de ce dunya ne sont plus applicables au jour de Qiyam. Si Allah Azza wa Jal permet au prophète alayhi salat wa salam d'aller récupérer des gens dans l'enfer, Allahu ta'ala a'lam. L'au-delà, c'est un autre univers, c'est un monde parallèle dont nous ne maîtrisons strictement rien. Le prophète salam ira donc dans l'enfer récupérer des gens, des ahli tawhid, des gens qui ont la ilaha illallah de leur cœur, waqadim tuhishu, et il les récupérera alors qu'ils seront déjà brûlés, ils seront totalement brûlés par le feu de l'enfer, nasallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent qu'il faut tenir compte de ces textes et donc ne pas se suffire des hadiths qui parlent de la ilaha illallah qui te protège de l'enfer totalement. Si on creuse les hadiths qui parlent du tawhid et qui est garant de protection contre le feu de l'enfer, la synthèse, si on le dit de façon très rapide, les savants disent que celui qui a la ilaha illallah ne restera pas dans l'enfer. On appelle ça al-khuloud. Il ne restera pas dans l'enfer. Mais quelqu'un qui a la ilaha illallah peut passer en enfer, comme Allah l'a annoncé, comme le prophète nous l'a dit par le biais des hadiths qu'on a cités, mais Ahlul Tawhid ne restera jamais dans l'enfer. Il n'y a pas le Khalidina fiha abada, et ça c'est réservé pour ceux qui n'ont pas la ilaha illallah. Ainsi, je reviens au tafsir, lorsqu'Allah met en garde les Quraysh que avec leur mécréance, comment peuvent-ils penser que le jour des comptes, ils seront à l'abri. Bien au contraire, ils seront dans les pires situations de l'au-delà. Moi, en tant que croyant, je me pose la même question. Comment puis-je penser être le plus heureux et être à l'abri de toute difficulté le jour de Qiyama si je reste dans mon cercle de péché, si malheureusement je ne pense pas à me réformer spirituellement? Donc c'est un enseignement direct que je me dois d'appliquer dans ma vie. À chaque fois qu'on est, voilà, là on a deux approches, deux compréhensions de l'au-delà. Dans le tafsir de la semaine dernière, on avait dit que quand on parle du Qiyama, ça doit être également un moment d'espoir pour nous face aux injustices. On avait parlé de dhulm, des injustices, que quel que soit le mal que les gens te font dans ce dunya, n'oublie jamais que si Allah ne règle pas leur compte, si Allah ne nous honore pas par une justice de ce dunya, la justice aura lieu dans l'au-delà. Ainsi donc, place ta confiance en Allah et garde espoir qu'en ce jour, il y aura l'adl, il y aura la justice, il y aura l'équité, il y aura la rétribution et il y aura également la punition pour les oppresseurs. D'accord ? Maintenant, on a une deuxième approche de l'au-delà. Quand tu es dans une situation de péché, quand ça nous arrive, je pense, au quotidien, d'être dans une situation où on a, ça peut durer une fraction de seconde, hein, on a le choix entre le bien et le mal. Ça peut être une situation plus réfléchie, on reçoit une proposition, je dis un exemple hein, parmi tant d'autres, hein, mon banquier me contacte parce qu'ils ont mis en place un prêt avec un taux d'intérêt, très faible. Et donc, ça peut me permettre de réaliser mes projets. Donc là, tu réfléchis, tu cogites, tu te dis que voilà, je peux avoir une somme immédiate et rembourser sans que ça ait des conséquences. Mais là, tu es exposé au haram et c'est une fitna. C'est un moment d'épreuve. Ça peut être également le contrôle du regard qu'on cite très souvent ces derniers temps ou n'importe quelle autre situation d'exposition au péché. Dans cette situation précise, aux croyants, aux croyantes, pense kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Je ne suis pas dans une situation de kufr qui va me condamner le jour de Qiyam, mais je suis dans une situation de ma'asiyya, d'exposition au péché, et si je penche et je me laisse glisser vers le péché, je le fais une fois, je le fais deux fois, jusqu'à devenir un fasiq, je vais me mettre en situation de difficulté le jour de Qiyam. C'est-à-dire, plus je vais parfaire ma vie de ce dunya, plus je vais faire attention à ce que ma relation soit correcte avec mon Seigneur, je me donne plus de chances d'être à l'abri des difficultés du jour de Qiyam. Et au contraire, si je tourne le dos aux ordres d'Allah et j'écoute mon nafs et je vais vers le péché, je suis en train de construire une situation de difficulté le jour de Qiyam. On revient au tafsir lorsqu'Ibn Kathir parle de tranquillité le jour des comptes qui sera impossible pour celui qui était dans le kufr. Ça rejoint le hadith Qudsi qu'on avait cité il y a 3 semaines dans un autre cours concernant la mort, lorsqu'Allah Azza wa Jal promet que celui qui a la crainte, la taqwa de ce dunya, qui vit avec la crainte d'Allah, Allah lui promet un cœur apaisé le jour de Qiyam. Et le contraire, celui qui vit dans ce monde, le cœur rafil, avec insouciance. C'est quoi insouciance? C'est sans analyser les situations de notre vie, sans regarder la frontière entre le halal et le haram. Celui qui vit le cœur léger, mais au sens péjoratif, qui ne pense pas à Allah Azza wa Jal, cette personne ne peut pas avoir le cœur apaisé au jour de Qiyama, car Allah l'a promis que je ne donne pas un cœur apaisé à une même personne de ce monde et de l'au-delà. Dans le sens où de ce monde, celui qui vit de l'insouciance, ben le jour de Qiyama, il n'aura pas un cœur apaisé. Bien au contraire, c'est une personne qui va vivre toutes les situations d'angoisse du Qiyama. Nas'alullah as-salam wa al-afiya. Et en conclusion, les Mufassirin disent, ô croyant, choisis quelle situation tu veux vivre. En commentaire plutôt du hadith, quelle situation tu veux vivre? Est-ce que tu veux une tranquillité le jour de Qiyama? Si tu le souhaites, si c'est ce que tu veux réellement, bah fais en sorte que de ce monde, ton cœur ne s'endort jamais. Comme le prophète alayhi salat wa sallam disait que les yeux dorment mais le cœur ne dort pas. C'est-à-dire que le cœur du moumine reste toujours vigilant dans le sens où à aucun moment on se laisse aller, à aucun moment, comme on dit l'expression, on se lâche et on oublie notre identité de croyant. Et parfois, il y a des personnes comme ça qui, dans les moments de forte sollicitation spirituelle, comme le Hajj ou le Ramadan, mashallah, ils sont à la mosquée au premier rang, ils font le maximum de bonnes actions, ce qui est très bien. Et on ne porte de jugement sur personne. Mais lorsque ces périodes intenses sont terminées, ben, c'est comme si qu'ils se disent intérieurement qu'on peut revenir vers une vie entre guillemets normal et retourner vers les péchés pour revenir plus fort à l'événement suivant. C'est pas comme ça que ça se passe. On a besoin de stabilité et le mot clé c'est al-istiqama. Et le istiqama, elle est basée sur la taqwa. Parce que vous voyez, ce sont des notions importantes ça. Sincérité, taqwa, istiqama, sincérité, piété et fermeté de la foi. Et ils sont tous liés. L'aboutissement, c'est à l'istiqama. Et à partir du moment où j'ai la fermeté de la foi, c'est que je suis sincère dans ma relation avec Dieu. Et si je suis sincère dans ma relation avec Allah, assurément, je vais faire preuve de piété. Et si on enlève un maillon, tout s'effondre. C'est-à-dire, si j'enlève par exemple la taqwa, je ne pourrai pas avoir la fermeté de ma pratique. Parce que si dans mon cœur, si mon cœur n'est pas habité tous les jours par l'amour et la crainte d'Allah, comment voulez-vous que cette personne reste ferme dans un chemin qui va à l'encontre de ses passions et de ses pulsions, où il y aura toujours à faire un mujahada, un sacrifice sur soi pour essayer de l'obéissance? Ce n'est pas possible. Donc il faut être sincère, il faut éprouver la crainte d'Allah, et c'est là qu'on aura la fermeté. Donc ce hadith, il est très puissant, et ça nous parle directement que si dans ce monde, ô croyant, tu te fais quotidiennement, tu te fais chaque jour, j'allais dire même à chaque minute, chaque seconde, du souci pour ta foi, c'est une bonne nouvelle. On peut se dire que le jour de Qiyama, j'aurai le cœur apaisé. Vous savez, à notre époque et avec notre faiblesse spirituelle, il faut pas rêver atteindre de très haut degré de ihsan ou le summum de la foi, comme c'était le cas des sahaba. On n'a pas ce niveau. Mais par contre, un signe de piété et un signe que nous sommes dans le droit chemin, ce serait le fait de se remettre en question régulièrement. À chaque instant, le mu'min analyse sa foi et se dit, mais quel est le regard d'Allah sur moi à cet instant? Est-ce qu'à cet instant, Allah est satisfait de moi? Ou alors j'ai fait des mauvais choix depuis ce matin? Et ainsi de suite. Le fait de se préoccuper au quotidien. Et j'insisterai même plus en disant à chaque instant de sa foi, c'est une preuve que, mashallah, la foi, le iman est présent et que la taqwa a pris place dans mon cœur. À partir du moment où mon cœur est, mashallah, est baigné par la taqwa, je peux avoir cet espoir que le jour de Qiyama, Allah m'accordera la tranquillité. Vous savez, vous connaissez le hadith de Hanzala, radiyallahu anhu, qui peut me citer le hadith de Hanzala concernant l'hypocrisie involontaire? Hudhaifa ou Nour? Il était dans une assemblée avec le prophète alayhi salat. Quelqu'un a pris la parole. C'est Hudhaifa. Je t'écoute, Hudhaifa. Comme salam. Non, pas mécréant. Hypocrite, oui. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Barakallahu fik. On a eu l'occasion une fois d'expliquer ce hadith. Et face, j'allais presque dire face à ce hadith, on est démuni spirituellement. On se rend compte quel est notre niveau. Ce sahaba, il est tourmenté par le fait, par une situation. Ce n'est pas une situation de péché. Ce n'est pas quelqu'un qui a accompli l'adultère et du coup, il se fait du souci pour sa foi. Qu'est-ce que j'ai accompli comme péché? Non, du tout. Il n'a rien fait de mal. C'est juste qu'il revient d'une assemblée avec le prophète, alayhi salatu wassalam, où là, il atteint le paroxysme de la foi, mashallah, en compagnie d'Al-Habib, alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il retourne à sa maison, dans son foyer, avec sa femme et ses enfants, il se rend compte que il est tellement détendu qu'il il se retrouve à rire, à plaisanter et il ne retrouve plus cette présence de foi qui était justement au summum il y a un instant. Donc il se dit que peut-être que je ne suis qu'un hypocrite. Et là, angoissé, apeuré, il retourne voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui parler de sa situation. Et là, il croise un autre sahaba qui demande « Où vas-tu ?» Il l'explique et bref, ils se comprennent qu'ils ont cette même crainte et ils vont voir le prophète alayhi salatu wassalam. Si on s'arrête juste à cet instant, on réalise que le sahaba avait un niveau de foi qui était exceptionnel. Il recherchait la proximité avec Allah, il voulait garder cette perfection de foi et pour eux, la moindre diminution dans l'analyse de sa foi, pour eux c'était peut-être de l'hypocrisie jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam les rassure et montre que l'islam est une religion du juste milieu. On peut pas être au plus haut niveau à chaque instant, mais il faut une stabilité et un juste milieu justement. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Donc à nous d'essayer de garder cette stabilité de la foi et si, je le répète à chaque instant, on se fait du souci pour notre iman, c'est déjà un bon signe. On ne va pas faire de choses exceptionnelles de ce dunya sur le plan spirituel, mais si je me fais du souci, yom ba'da yom, à chaque instant pour mon iman, c'est déjà un point extrêmement positif. Hada. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا أي من شدة أهواله وبلابله. ابن كثير رحمه الله dit pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal utilise cette métaphore où un enfant verrait ses cheveux blanchir le jour de Qiyama par rapport à au ahwal, par rapport à ce que l'être humain va voir en ce jour. Et aucun homme n'est prêt à voir les supplices de l'au-delà. Et on ne parle pas de personnes qui entrent en enfer, non, aucunement. On parle de personnes qui sont ressuscitées, ben comme vous et moi, comme tout le monde, nous serons ressuscités et nous allons voir ce qui se passe dans l'au-delà. Le déroulement, on va dire, des différentes scènes de l'au-delà, les anges qui descendent des cieux et qui font des cercles autour des personnes qui sont ressuscitées. Et l'enfer qui est présent, là on va à la fin, hein, l'enfer qui est présenté à la terre de résurrection. Et même les prophètes alayhi salat wa salam auront peur en ce jour et ils penseront à leur propre personne, les fameux hadiths qui mentionnent nafsi, et le prophète alayhi salat wa salam lui pensera à sa umma. Il y a des situations terribles le jour de Qiyama qui sont telles qu'un enfant verrait ses cheveux blanchir par peur et par crainte, par effroi. C'est la métaphore, c'est ce qui est utilisé dans ce verset « Yawma yaj'alul wildana shiba ». Ibn Kathir, rahimahullah, complète ce tafsir en faisant allusion à une situation précise du Qiyama qui va effrayer les personnes ressuscitées. C'est lorsqu'Allah Azza wa Jal dira à Adam alayhi salam d'envoyer une partie de sa descendance dans l'enfer. Hadith que vous avez peut-être déjà lu, et il est stipulé de hadith min kulli alfin, pour 1000 personnes, il y aura pour 1000 personnes, oui, il y aura 99 personnes qui iront en enfer. Pour 1000 êtres humains, min kulli alfin, pour 1000 êtres humains, il y aura 99 qui ira en enfer. Non, je pense que ça a été, il y a une petite erreur dans la traduction. Pour 1000, il y aura 999. Il manque le mot mi'a en fait. Je le cherche, je ne l'ai pas. J'ai 99, j'ai 99. Et wa wahidun ila al-jannah, et un seul qui ira dans le paradis, dans le jannah. Et on a une autre version qui dit min kulli alfin. Voilà la bonne version. Hein. La première, peut-être qu'il y avait, il manquait quelque chose. Là, on a la bonne version. Min kulli alfin 900 wa 99 wa yanju wahidun. 999 parmi 1000 êtres humains iront en enfer et un seul ira de le paradis. Fashtadda dhalika 'ala al-muslimin. Et lorsque les sahaba ont entendu cette description, ils ont eu peur, ça les a beaucoup affectés, et le prophète alayhi salat wa salam l'a compris. Thumma qala hina absara dhalika fi wujuhihim. Lorsque le prophète salam a vu cette tristesse s'emparer des sahaba, le prophète salam a dit que je vous rassure que la descendance de Adam alayhi salam, elle est très nombreuse, et sachez que Ya'juj wa Ma'juj, que Gog et Magog font partie de la descendance de Adam alayhi salam. Et le prophète salam ensuite, le hadith est un peu long, le prophète salam a expliqué comment est-ce que c'est une population extrêmement dense, ça peut, les Gog et Magog, beaucoup plus nombreux que la race humaine, je dis la race humaine, mais ça reste quand même des êtres humains. Il dit que la majorité des personnes qui iront en enfer, ben, ce seront de la descendance de Adam al-Sam, certes, mais du côté de Ya'juj ou Ma'juj, afin que les Sahaba, voilà, qui comprennent qu'il ne s'agit pas forcément d'eux ou des Ahlul Tawhid. Donc, Ibn Kathir, rahimahullah, fait un parallèle avec cette situation. Et je pense que quand il parle de ce hadith, on peut, par analogie, mentionner n'importe quelle situation d'effroi, le jour de Qiyama, qui va provoquer cette peur. Donc, il y a deux éléments qui ont été cités dans ces versets pour qu'on réalise que ce sera un jour effroyable. Premièrement, c'est, comme on vient de citer, un enfant qui verra ses cheveux blanchir en voyant les scènes de l'au-delà. Et deuxième verset, c'est la suite « As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'oula ». Traduction du verset. Et durant lequel le ciel se fendra et sa promesse s'accomplira sans doute. Le ciel va se fracasser, et il y a d'autres sourates, d'autres chapitres qui parlent de la sama'un fatarat, ay bisababihi wa min shiddati hawlihi. Par rapport à cette situation intenable du Qiyama, le ciel va se fracasser. Et là, on a As-Sa'di rahimahullah dans son tafsir, yaqulu. فكيف يحصل لكم النجاة من يوم القيامة؟ Comment est-ce que une personne peut penser survivre et être à l'abri des difficultés de jour de Qiyama, sachant que ce sera un jour tellement terrible que les enfants vont voir leurs cheveux blanchir et les montagnes, et là il fait référence au verset qui vient d'avant, les montagnes seront réduites en poussière. Et les cieux vont se fracasser tellement sur une situation difficile le jour de Qiyama. Donc ces versets nous donnent une idée de la difficulté de Yawmul Mahshar. Hada. Kana wa'duhu maf'oula. Sa promesse s'accomplira sans doute. Ibn Kathir rahimahullah dit ay kana wa'du hadha al-yawm maf'ula ay waqi'an la mahala. C'est une promesse d'Allah Azza wa Jal que le Qiyama aura lieu, et on avait dit que c'est le moment où la justice sera rétablie, Allah Rabbul Izzah qui est Malik Yawmiddin, mais c'est également le jour de rétribution, c'est également le jour de punition pour les péchés et pour les oppresseurs, mais c'est également le jour où les personnes éprouvées de ce dunya trouveront enfin les récompenses pour chaque moment, pour chaque instant passé dans les ibtilas, dans les difficultés. Et Ikhwan et Fillah, je ne sais pas si, pour ceux qui étaient présents au séminaire sur les sept catégories de personnes à l'ombre du trône d'Allah, le jour de Qiyama, en introduction, on avait parlé du Qiyama et qu'est-ce que cela apporte, l'étude des ahwal, des situations du Qiyama, de la résurrection, qu'est-ce que cela apporte directement aux croyants. Et parmi les points qu'on avait cités, c'est le fait que la personne éprouvée de ce dunya se raccroche à cette promesse de résurrection, avec cette conviction que le jour de Qiyama, Allah Rabbul Izzah va honorer les personnes qui étaient éprouvées de ce dunya. Et de quelle façon la personne trouvera son livret de compte, subhanallah, totalement vierge, vidé du moindre péché, parce que dans ce dunya, Allah aura pardonné à la personne éprouvée. La personne qui, il y a des gens qui sont en souffrance chaque jour, il y a des personnes qui sont dialysées, d'autres qui souffrent d'un cancer ou autre. Qu'Allah nous protège et accorde la santé aux personnes qui sont dans la souffrance. Ça peut être des épreuves en rapport avec la santé, des épreuves en rapport avec la perte des biens, toutes les épreuves citées dans la sourate Al-Baqarah. Jusqu'à la fin du verset, c'est également les personnes dans le monde musulman qui souffrent d'oppression. On parle bien, subhanallah, on peut parler du Sham, on peut parler de la Chine et de tous ces pays où les croyants sont opprimés et oppressés. Ça peut être des personnes qui souffrent de la famine, hein, dans différents pays où il manque de nourriture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le croyant est en souffrance et qu'il doit être patient et endurant, il faut s'accrocher aux promesses de l'au-delà. Et la promesse de l'au-delà, c'est de retrouver, Inch'Allah, un livret de compte vierge où il n'y aura pas de péché. Et ce sera pour ce croyant l'accès au paradis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrive à me projeter sur l'au-delà, yawm al-qiyama, on arrive à relativiser notre vie de ce dunya. Je relativise mon exposition au péché. Lorsqu'il y a l'appel vers le mal qui est envahissant, je me dis que non, je ne peux pas me permettre de me laisser aller comme monsieur tout le monde, c'est-à-dire monsieur Kufr, monsieur Shirk, d'accord? Et bien au contraire, je me raccroche à ma foi parce que je crois à une vie après ce dunya et je sais qu'Allah Rabbul Izzah sera satisfait et fier de moi si j'ai résisté au péché. Pareil pour la personne éprouvée, se dire que là-haut, on verra vraiment al-jaza, la récompense et la rétribution. Donc c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal, kana wa'adu maf'oula, mais également pour punir et sévir ces personnes qui ont fait du tort au prophète alayhi salat wa salam, et d'une façon générale, les personnes qui ont eu un comportement déplaisant dans ce dunya. Et en conclusion de ce verset où Allah rappelle que c'est une promesse que le Qiyama aura lieu, il y a une conclusion d'un contemporain, d'un mufassir contemporain qui dit « Ô croyant, maintenant que tu as pleinement connaissance que le Qiyama aura lieu, la mahal, obligatoirement, wa'adu maf'oula, et que c'est un jour qui est terrible, où le ciel va se fendre, où les trois situations qu'on a citées, ista'id li hadha al-yawm. » Et c'est ça la plus belle des conclusions. Hein, Abdul Malik? Ça veut dire quoi, ista'id? Hein, on a quelle forme là? Ista'id, yasta'id. Oui, non? Oui. Ista'id, on est au amr, impératif. Prépare-toi. Ista'id li hadha al-yawm. Prépare-toi pour ce jour. Et c'est ce qu'on appelle le comportement du croyant productif. On a besoin de croyants productifs. On n'a pas besoin de philosophes. Si, on a un peu besoin aussi. Mais ceux qui philosophent sur l'islam et qui ne font que parler de thèses et discuter, c'est pour eux. Mais est-ce que cela leur est profitable directement? Oui ou non? Allahu a'lam. On a besoin de croyants productifs qui entendent des textes et qui comprennent des versets, qui apprennent l'explication de hadith et qui vont changer leur vie à l'écoute de ces nusus pour essayer d'être meilleur yom ba'ad yom, jour après jour. Et c'est vraiment là où on veut en venir. Une fois le prophète alayhi salat wa salam avait été questionné par Sahaba concernant le Qiyam, le prophète alayhi salat, concernant les signes de Qiyam. Le prophète alayhi salat wa salam avait l'habitude de donner une réponse personnalisée à chaque individu en fonction de leur, de la personnalité, de leur niveau de foi. Le prophète salam pouvait connaître ce genre de choses. Et le prophète salam a demandé à cette personne, Mada, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? C'est-à-dire qu'avant de poser des questions sur la fin des temps, les signes et comment sera l'au-delà, la bonne question que tu dois te poser aux croyants, c'est qu'est-ce que j'ai préparé pour ce jour? Comment est-ce que je me prépare au quotidien pour affronter ce fameux Yom al-Mahshar, Yom al-Qiyama, Yom atoub al-Sara'ir? C'est ça la réaction du mu'min qui est productif. Hada. Et un autre commentaire que j'ai trouvé tout à l'heure après le Maghrib, kana wa'duhu maf'oula, ay la budda min wuqu'i, ce jour aura lieu absolument sans le moindre doute, sans le moindre doute parce que ça fait partie des piliers de la foi, hein, al-iman bil yawmil akhir, ça fait partie des bases, des piliers, des branches de la foi, qu'on appelle piliers ou branches, c'est pas un problème. Il y a un tafsir qui était pas mal du tout par un contemporain qui dit que le mu'min se doit de comprendre que l'at-ta'a, Laysat raya, que l'acte d'adoration que tu accomplis, ce n'est pas l'objectif ultime, ce n'est pas une finalité. La prière de Isha que nous avons accomplie, pour la réunion, pour ceux qui sont en métropole, ce sera peut-être dans un instant, la prière que tu accomplis, elle ne s'arrête pas au moment où tu as fait salam alaykoum wa rahmatullah, c'est-à-dire ce n'est pas un objectif en soi. Et ça ne s'arrête pas à partir du moment où la prière s'arrête. Et nous, très souvent, on fait l'Isha et puis, subhanallah, on passe à autre chose, on fait le Fajr le lendemain, mais jamais on se demande ben, où est ma salat de Isha de 1992, où est mon Qiyam ul-Layl de 1982, et ainsi de suite. C'est pour nous, l'action a été accomplie, c'est terminé, mais ce n'est jamais terminé. Et c'était pas mal du tout, il a dit, cette personne a cité 6 étapes des actions. Pour qu'on prenne encore plus de considération, on donne encore plus de considération aux bonnes actions qu'on accomplit. Il dit que tu as accompli la bonne action, à partir du moment où l'action a été accomplie, « Bifadlillahi ta'ala wa bitawfiqihi », l'action est notée par les anges et la bonne action est posée dans ton livret de compte, à droite. Pour les bonnes œuvres et qu'Allah nous protège à gauche pour les péchés. Mais on va rester dans les bonnes actions. Cette action, elle est préservée et elle est parfois multipliée. En fonction de ta sincérité et des efforts, Allah est capable de multiplier jusqu'à 700 et Allah seul sait comment il peut rétribuer le croyant. Cette action, elle t'accompagnera jusqu'à la mort à partir du moment où tu la protèges. Protéger l'action, c'est faire en sorte de ne pas accomplir certains péchés qui sont destructeurs. Qui peut me citer un péché, un seul? On ne va pas s'étaler sur le sujet. Un péché qui est connu pour être un destructeur de bonnes actions. Je répète la question. Qui? Oui? Ah, il y a déjà une réponse. Alors, HC, c'est Hudaïfa. Je t'écoute. La jalousie. Hein, on dit la jalousie, c'est un quoi? C'est un vilain défaut. Mais ce n'est pas un vilain défaut, c'est un péché grave. C'est un péché intérieur et Allah seul sait comment est-ce que la jalousie fait des dégâts dans la société. Le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle que la jalousie détruit les bonnes actions comme le feu consume le bois sec. Donc, ces bonnes actions que tu accomplis, l'étape suivante après les avoir accomplies, c'est de les préserver. C'est-à-dire que tu te protèges des péchés et parmi ces péchés qui sont destructeurs de bonnes actions, il y a la jalousie, car la jalousie détruit les bonnes actions. Si, bi'idnillah, tu as pu protéger la bonne action, sache que cette bonne action reste dans ton livret de compte et elle t'accompagne dans ton qabr, dans ta tombe, et tu es ressuscité alors que la bonne action, elle est toujours inscrite dans le livret. Le livret, le jour de Qiyama, on est à la troisième étape, et distribuer les livrets. Le verset ne me revient pas, c'est de la sourate Banu Israël, où Allah Azza wa Jal rappelle que les livrets seront distribués. Étape suivante, le livret est remis, cette fois-ci individuellement aux personnes. Dans la main droite, pour les gens qui étaient dans le droit chemin, Allahumma ja'alna minhum, et dans la main gauche, derrière le dos, pour ceux qui étaient dans le mauvais chemin ou dans trop de péchés, nasallallahu alayhi wa sallam. Les actions seront posées dans le mizan, dans la balance, le jour des comptes, et nous serons interroger et questionner à propos de ses actions, et bien, idnillah, ces actions nous permettront d'accéder au paradis ou, qu'Allah protège, d'aller en enfer. C'est-à-dire, réaliser que lorsque j'accomplis une bonne action, ce n'est pas une finalité. Elle ne s'arrête pas lorsque l'action s'arrête. C'est quelque chose qui, idnillah, sera avec nous. C'est une lumière que nous gardons et que nous devons donc entretenir et préserver. Donc, le croyant productif, c'est celui qui, à chaque instant, se fait du souci pour sa foi et qui se prépare tout le temps, chaque jour, pour le Yom al-Mahshar, le jour où il sera présenté à Allah Azza wa Jal. Je n'ai pas chronométré, mais je pense qu'on a déjà fait nos 20 minutes, hein, je pense. Et bon, après, il y avait un autre verset, mais du coup, ça nous permet de faire un parallèle avec le hadith que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le... de regarder hein, plutôt la vidéo. Bon, c'est en arabe certes. Il me semble que c'est un imam de Mecca, non? C'est un jeune, je ne le connais pas. Qui c'est qui connaît son nom? Je pense que Hudhayfa il connaît. Hein. C'est pas Juhani, non? Vous avez vu la vidéo?
لو استطعنا أن ننفذ هذا الحديث وأن نلتزم بهذا الحديث في هذا الزمن لحلت كثير من إشكالياتنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها طبعا مش معنى أثرة
je retrouvais le texte. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit aux sahaba que viendra une époque où vous verrez des choses déplaisantes, des choses qui vont vous perturber. Et les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in on posait la question, mais en ce jour, le jour où il y aura, ce sont des fitnas, ce sont des situations difficiles pour le croyant, quelle devra être notre réaction? Qu'est-ce que nous devrons faire? Et justement, le cheikh, quand il explique ce hadith, il dit, voyez l'intelligence des sahabas. Le prophète me dit qu'il y aura des situations déplaisantes. Ils n'ont pas posé la question pour savoir mais qu'est-ce qu'il y aura comme situation déplaisante, quel genre de choses, à quelle époque, est-ce que ce sera tel... Non, ils n'ont pas posé des questions précises pour connaître la nature de ces péchés qui vont être envahissants. Mais ils ont immédiatement posé la bonne question, le haut prophète d'Allah, dans ces situations de fitna. Hein? Et ça a été commenté dans le hadith que c'est une époque où les gens donneront préférence au dunya. Ils vont délaisser la pratique de la religion pour donner préférence au dunya. C'est-à-dire une grande époque de fitna. Les sahaba ont demandé à Rasulallah, « Mada ta'muruna ?» Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire en ce jour? Et dans cette première partie, donc le cheikh dit que, vous voyez, je répète l'intelligence des sahabas, le but n'est pas de savoir qu'est-ce qui va se passer, quelle est la nature de ces péchés, quel genre de péché, à quelle époque, après combien de temps, non. Eux, ils voulaient savoir si cette époque ce sera la nôtre, si nous allons vivre cette époque, qu'est-ce que tu nous demandes de faire au prophète d'Allah? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit aux sahabas, j'ai retrouvé le matin, « Addul haqq alladhi alaykum, was'alullah alladhi lakum. » De votre côté, « Addul haqq alladhi alaykum. » Vous devez d'accomplir ce qui vous incombe. Et ce qui ne vous concerne pas pour les autres choses, demandez à Allah Azza wa Jal les choses sur lesquelles vous n'avez pas un contrôle. C'est-à-dire qu'en commentaire, le muhadithin explique, il donne deux notions, on va dire là on est dans l'arabe moderne, « da'iratul ihtimam » et « da'iratul ta'thir ». Il dit qu'il y a des choses qui nous sont accessibles, il y a des choses qui dépendent directement de nos choix et de nos décisions. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas de nos mains. Alors, on va commencer par la deuxième chose. Quand les gens parlent de politique, quand les gens parlent de l'islamophobie, de le monde, quand les gens parlent de situation dans tel pays, plein de choses, d'accord? Certes, il est bien de parler de tout ça, il est bien de... Il y a des gens qui aiment, comme on dit, qui aiment refaire le monde, d'accord? Et en faire des sujets de débat, de discussion, ce n'est pas un péché en soi. Mais ce que le prophète alayhi salam veut dire, c'est que le croyant ne doit pas trop s'investir dans les choses sur lesquelles il n'a pas main mise et qui n'a pas le contrôle. Pour ces points-là, وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ il s'en remet à Allah et il demande à Allah Azza wa Jal d'arranger la situation et de leur permettre à eux, si ils sont lésés dans cette situation, d'obtenir leur droit. Mais sachant que ce n'est pas quelque chose qui est sous contrôle, de s'en remettre à Allah. Mais par contre, les choses qui nous appartiennent, nous, et qui sont sous notre responsabilité de le faire. En commentaire, il dit que quelles sont les choses qui nous incombent? Ce sont les obligations, les wajibat, ta prière, ton zikrullah, ta lecture du Coran. Et le cheikh, il dit, personne ne m'a donné son nom encore, on va l'appeler cheikh Juhani, d'accord, mais après s'il s'appelle autrement, on me rectifiera avant la fin de l'audio. Cheikh Juhani dit qu'il y a beaucoup de gens, comme on a dit tout à l'heure en introduction, qui philosophent énormément sur la religion, qui sont prêts à débattre des heures et des heures sur la situation des musulmans dans tel pays, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de faire telle chose. Mais si on le pose une question très simple, t'as fait Fajr ce matin? Ils vont dire que, ben non. Ils disent, ben voilà exactement, c'est de ça que le prophète alayhi salat wa sallam nous a mis en garde. De ne pas se préoccuper de choses extérieures, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer, que nous ne serons pas d'accord avec ces choses-là, mais c'est dans les mains d'Allah. Par contre, notre vie à nous, bi'idhnillah, c'est nous qui en prenons les décisions. Fais en sorte, à chaque instant, que tu sois dans le droit chemin. Fais en sorte de te... de s'accrocher à la corde d'Allah, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna, fait en sorte que chaque moment, chaque instant de ta vie soit de l'ta'a, et après les choses qui ne sont pas de nos mains, qaddar Allah, c'est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on a pu retenir un peu de ce hadith, mais qui, à mon humble avis, est extrêmement important, parce que d'année en année, nous allons voir de plus en plus de fitna, et nous ne devons pas nous préoccuper excessivement des choses qui se passent dans le monde. Quand on peut apporter quelque chose, alhamdoulilah, on le fait, d'accord ? C'est une préoccupation, certes, mais cette préoccupation-là ne doit pas occulter notre lien direct avec notre Seigneur, parce que c'est ça la priorité. Ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, protégez-vous et ensuite vos proches du feu de l'enfer. C'est-à-dire, c'est un engagement direct que nous avons avec Allah, et nous devons nous parfaire au quotidien. Et le reste, c'est dans les mains d'Allah. Parce qu'Allah, Rabbul Izzah, dans sa clémence, accepte ce majlis et nous donne la possibilité de comprendre qu'est-ce que le Qiyama et de s'y préparer. Qu'Allah nous accorde le tawfiq de nous faire du souci au quotidien, de ce qu'on arrive à se faire du souci au quotidien pour notre iman, et à se parfaire, à combler nos erreurs, à progresser, à avancer, et qu'Allah nous permet d'avancer dans un sirat mustaqim, dans un chemin droit, jusqu'au jour où nous allons retourner vers lui. Ma tawfiqi illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen.